Voilà. Alors, c'est un plaisir d'être parmi vous ce matin. Ce sujet m'a fait bien réfléchir, m'a fait me poser plein de questions, m'a fait regarder en arrière, enfin voilà. Mais j'ai trouvé l'exercice intéressant et je vous propose de le faire chacun. Alors, peut-être que ces différents dimanches vont vous donner des pistes, mais peut-être faites-le avant que tous les autres viennent aussi. Voilà, vous trouverez peut-être des choses. Nous sommes des êtres uniques et des êtres complexes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On est né avec une personnalité spécifique. On est marqué par ce que nous avons vécu, particulièrement les premières années de notre vie, mais aussi par les suivantes. Et puis, on a été touché, j'espère, chacun d'entre nous, par la grâce de Dieu. Et nous sommes en chemin avec lui. Et c'est vrai qu'il est le seul chemin, ça c'est une vérité, je commence par une vérité, mais nos routes ne sont pas toutes les mêmes, parce que c'est l'arrivée qui compte sur ce chemin. Donc c'est vrai que j'ai découvert dans ma vie des mensonges, mais parfois il m'a fallu beaucoup de temps pour les reconnaître. Et je pense que l'âge venant, c'est aidant pour reconnaître les mensonges. Alors, il y a des mensonges que j'aurais peut-être voulu reconnaître plus vite, mais je crois que j'aurais pas forcément été capable. Donc, j'ai envie de nous dire, soyons ouverts, de découvrir ces mensonges tout au long de notre vie. Je vais vous parler d'un en particulier, un ou deux, mais je pense qu'il y en a plein, il y en a des plus gros ou des plus petits, il y en a qui nous paralysent peut-être plus que d'autres. Mais je crois que dans notre vie, ces mensonges, ils sont là, et c'est important qu'on y soit attentif. Alors, je ne veux pas entrer dans la psychologie, parce que ce n'est pas ma spécialité, je pourrais me perdre, il y a certainement plein de gens ici qui sont plus au fait que moi, donc je voudrais faire attention, mais notre être est partagé en trois choses. Il y a notre corps, il y a notre psychique, il y a notre esprit. Et il est vraiment important aussi de pouvoir séparer tout ça. Et je pense que dans les mensonges, c'est souvent quand on les mélange ou quand on prend les choses pas à la bonne place. Alors, ces trois choses qui nous sommes, interagissent. Et nous sommes tout cela, et Dieu l'a voulu ainsi. Et parfois, peut-être, on aimerait mieux mettre moins de place à notre corps ou à notre psychique. Mais tout ça, ça fait partie de nous. Et je pense qu'il y a souvent là, pour moi en tout cas, dans ma vie, des choses qui se sont mélangées et qui ont fait qui ont provoqué des messages, des mensonges au niveau spirituel. Dans ton petite, j'avais un papa très gentil, mais assez sévère et surtout très exigeant. Alors, je ne l'ai pas connu très longtemps. J'avais 12 ans quand il est décédé. Pourtant, c'est déjà pas mal. Mais je me rends compte que j'ai eu peu de contact avec lui parce que c'était un vaudois, travailleur. Et puis, c'était ma maman qui s'occupait de nous. Donc voilà, mais très gentil, mais très exigeant, surtout avec moi qui était l'aînée. Donc, c'était jamais assez bien. Je devais toujours montrer l'exemple, je devais toujours faire mieux. Et puis, au point qu'un jour, quand j'ai ramené mon carnet scolaire, je n'étais pas la meilleure, mais pas la moins bonne non plus, bref, il avait collé un petit, c'était pas un verset biblique, parce qu'il n'était pas chrétien à ce moment-là, c'était un petit proverbe de calendrier, c'était marqué « Quand tu as fait bien, oublie et fais encore mieux ». Et je m'étais fait gronder par la maîtresse, parce qu'il n'avait pas le droit de coller des petits, évidemment. Mais ça m'a toujours poursuivi, je crois. Je crois que ça m'a suivi, et pas seulement cette phrase, je m'en souviens, mais parce que tout allait avec. Il fallait toujours faire mieux, faire bien, c'était jamais assez. Et ça correspond vraiment maintenant à ma personnalité. C'est jamais assez bien. C'est jamais fini. ça me pose, c'est des fois compliqué, hein, parce que je dois avouer que Thierry m'a demandé un petit résumé de mon message ce matin, mais il n'était pas prêt avant que presque ça commence, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'est un peu ma personnalité, c'est le temps, c'est la pression, et comme je pourrais toujours améliorer, ben, j'attends le dernier moment. Alors c'est des fois un peu difficile, et mais ça fait aussi partie de ma personnalité. Je travaille aussi sous stress, et vraiment ma question c'est de savoir qu'est-ce que je dois accepter et qu'est-ce que je dois changer. Hein, on est tous comme ça. Mais ça, c'est un petit peu pour poser le décor. Mais mon gros problème par rapport au mensonge, c'est que j'ai besoin de toujours faire mieux pour Dieu. Toujours plus. C'est comme si c'est... Pas que c'est un Dieu exigeant, un peu, mais j'ai quand même compris qu'il m'aimait et qu'il n'était peut-être pas aussi exigeant que mon papa. Mais c'était dans mon mensonge à moi. Je devais lui faire plaisir. Je devais lui plaire. Et puis, la Bible, elle le dit, c'est biblique, c'est spirituel, c'est bien chrétien, hein, la perfection, la sanctification. Ce n'est pas des choses qui sont fausses, mais tout ça me poussait à des comportements et surtout à ma façon de découvrir Dieu qui était difficile. Et puis, dans l'armée du salut, on est plutôt un peu poussé dans ce sens-là aussi, hein, pas seulement à être meilleur, mais à faire aussi pour lui. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est « Le règne de la grâce » de Steph McVeigh. Je ne sais pas si plusieurs l'ont lu. Et puis, assez au début, il dit, il y en a qui disent « sauver pour servir », mais c'est tout faux. Je me suis dit « aïe, 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 on est mal là. » D'accord, si c'est moi qui vous le dis depuis là, je ne sais pas comment ça va, c'est enregistré en plus. Voilà, mince. C'était vraiment quelque chose que je trouvais vrai, juste, et qui me convenait bien, et qui, le Seigneur m'avait sauvé pour que je donne tout, pour que je fasse pour lui, pour que je sois meilleure, etc., etc. Et puis là, j'ai vraiment compris on n'est pas sauvé pour servir, on est sauvé pour être en relation avec Dieu, on est sauvé pour être aimé de lui, pour se laisser aimer, pour le laisser nous aimer, pour l'aimer. Et puis, c'est pas tout faux, parce que c'est sauvé pour être aimé et pour servir, au final. Hein. Donc, c'est pas tout faux. Il manque juste quelque chose entre les deux, j'ai envie de dire. Et ça a changé. Que j'avais plus besoin de faire pour plaire à Dieu. Et un jour, peut-être que je l'ai déjà dit, j'avais vraiment l'impression... J'ai réalisé que Dieu ne pourrait pas m'aimer plus si je priais plus. J'avais un souci avec la prière, je trouvais que je ne mettais pas assez de temps dans mon culte avec Dieu, dans la prière, et du coup, je me sentais coupable. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais rien faire dans ma vie pour que Dieu m'aime plus. Alors, ça peut être évident, mais je pense que ça nous questionne aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour être aimé de Dieu, pour être... pour le servir, la Bible nous y encourage, le ministère nous y encourage aussi, hein. Mais vraiment cette découverte pour moi de l'amour de Dieu inconditionnel, de l'amour du Père sans rien, sans aucun mérite. Nous sommes faits pas pour servir Dieu, mais pour être avec Dieu, pour le plaisir de Dieu, hein, dans Sophonie aussi qui est dit que Dieu tressaille de joie, pas à cause de ce qu'on fait, pas à cause de ce qu'on fait, mais à cause de juste nous, de moi, de toi. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui est libérateur. Et ce verset de Ésaïe 54, que vous connaissez tous, je suis convaincue, m'a accompagnée et m'a vraiment aidée aussi à me l'approprier. Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse, en plus c'est au féminin, c'est extraordinaire, ne bougera jamais. C'est moi le Seigneur qui te le dis, qui te dis cela dans ma tendresse. Et pendant 6 mois, j'ai relu ce verset tous les matins au petit déjeuner, pour m'en imprégner, pour le recevoir. Et que cet amour, il n'y a rien, je ne peux rien faire pour le mériter. Ce n'est pas moi qui le fait. Et je crois que Si je vous dis ça, vous allez me dire, mais je savais, hein, ce n'était pas nouveau, je le savais. Et je suis sûre que vous le savez. Mais comment on le fait dans nos vies? Comment c'est vrai, de vrai, de vrai, dans notre quotidien, dans notre façon d'être, dans nos émotions, dans notre relation avec le Seigneur? Il nous a été dit dans les derniers conseils d'officier aussi que Dieu se languit de nous. Il ne se languit pas de notre service ou de nos actions, mais de nous, de passer du temps avec nous. Voilà, sauver pour se laisser aimer par Dieu, pour l'aimer, et cet amour nous conduira forcément à aimer les autres et au service. Et je crois que recevoir l'amour de Dieu toute une vie n'y suffira pas pour le comprendre. Hein? L'amour tellement déformé, l'amour, on a des images, on pense aussi à l'amour paternel et l'amour maternel. Alors, Dieu, il a tout, c'est un amour plus grand que tout ça, que l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres, et on n'aura jamais fini de le découvrir. Et ça, je crois que c'est une vérité qui est bonne à savoir aussi, et de savoir qu'on est en route, on n'a pas trouvé. Et que cet amour de Dieu, ce que j'ai compris, c'est qu'il comble tous mes besoins, tous, qu'il comble mes besoins en particulier de sécurité. Et peut-être on ne se rend pas compte, mais cette sécurité, elle est tellement importante. Être en sécurité dans l'amour de Dieu. Parce que l'insécurité, c'est justement ce qui va me faire vouloir plaire à Dieu, vouloir plaire aux autres, vouloir faire mieux, vouloir avoir de la reconnaissance vis-à-vis des autres. Quand on n'est pas dans cette sécurité, il peut y avoir tellement de choses qui sont signes de cette insécurité, comme la jalousie, la compétition, le besoin de plaire et toutes ces choses-là. Donc j'ai vraiment besoin dans mon quotidien, encore et encore, d'être sécurisée dans l'amour de Dieu. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il veut nous donner à chacun. Alors avec ce désir, ce besoin que j'avais de plaire à Dieu, il y a aussi justement ce besoin de faire mieux, de toujours faire mieux, ce besoin de... je ne trouve plus le mot, de perfection, hein, le perfectionnisme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a habité, qui m'habite encore. Voilà, il faut se battre toujours avec ce qui on est. Et puis, ça fait partie aussi de ma personnalité, encore une fois. Donc, je ne peux pas juste tout balancer et puis tout spiritualiser. Hein, je dois faire avec mon corps aussi qui a ses limites. Et ça aussi, des fois, on aimerait passer au-dessus. On aimerait qu'avec la foi... Ben, on n'a plus de limites physiques, on est guéri, on peut repousser toujours la mort, mais ça c'est aussi des mensonges de croire qu'on n'est plus que spirituel, qu'on n'est plus que dans cette dimension-là. Donc j'ai vraiment compris que je devais accepter ma condition humaine. Et ça, c'était un moment très, très fort dans ma vie. J'ai découvert que j'avais, je ne savais pas, parce que c'est bien caché, et c'est pieusement caché, j'ai envie de dire, mais une certaine désir de toute puissance. Alors, je ne crois pas que j'étais dictateur, même si je sais dire les choses, pas dans ce sens-là, mais dans ce sens de toujours plus, de dépasser des limites. Et c'est très spirituel aussi d'être parfait, hein. Donc on veut être parfait, c'est la Bible le dit, on veut pouvoir voir des miracles, on a la foi, donc à cause de notre foi parfois on est dans la toute-puissance, dans la non-acceptation de nos limites d'être humain. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est peut-être un peu un raccourci. Ce qui m'a beaucoup aidée dans ce temps-là, c'était le séminaire avec Simone Paco, Évangélisation des profondeurs. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un livre là-dessus aussi. Et vraiment de reconnaître nos limites. Et c'est Dieu qui est tout-puissant. Pour vous donner un exemple, à la fois de je me mets la barre haute, je me mets des pressions... Et à la fois, je dépasse les limites. J'ai réalisé, après quelques années à la division, que je m'étais mis comme mandat, alors je ne l'avais pas écrit, je l'ai réalisé après, mais que je m'étais vraiment mis le but de rendre les officiers heureux. Voilà. Donc c'est beau, hein, c'est beau. Et puis tout d'un coup, le Seigneur m'a vraiment, je me souviens, je sais exactement où j'étais dans la nature, dans un parc, quand le Seigneur m'a repris, puis il m'a dit, mais tu te rends compte de ton orgueil déjà. Et puis c'est comme un désir de toute puissance. Il m'a dit d'abord, un, c'est moi qui les rends heureux, et ensuite deux, c'est un peu eux aussi. Hein. Voilà, c'est cette responsabilité. Et alors, je vais continuer de faire mon travail pour essayer qu'ils puissent bien faire le leur, qu'ils soient bien, qu'ils soient si possible heureux, évidemment. Mais je me suis mis quelque chose qui n'était pas, non seulement pas possible, qui allait me mettre en échec, mais surtout qui était dans la toute-puissance. De ne pas reconnaître mes limites et de ne pas reconnaître que Dieu est vraiment celui qui est Dieu. Et pendant longtemps, enfin, j'y réfléchis, et je vous avoue que je reviens encore souvent à ces paroles de Genèse 3, de la chute. Et ça me parle énormément. Je vous lis les premiers versets. Hein. « Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne manger aucun fruit du jardin ?» La femme répond au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin. » Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ses fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Le serpent répond à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. La femme se dit, le fruit de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons, ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange, elle en donne à son mari, qui est avec elle, il en mange aussi, alors leurs yeux s'ouvrent. Je ne sais pas si vous voyez le parallèle, mais pour moi, c'est vraiment la chute de ce moment de toute puissance, ce moment de connaître, de vouloir savoir des choses qui appartiennent à Dieu. Alors, bien sûr, c'est important qu'on sache ce qui est bien, ce qui est mal. On a la Bible qui nous donne aussi plein de pistes, mais je crois qu'on est trop souvent à vouloir cette connaissance-là. Et ça, c'est, je dirais, pas seulement les chrétiens, je pense les scientifiques aussi, hein, ils veulent savoir, ils veulent découvrir, et si possible, sans Dieu, mais même nous, on veut savoir ce qui est juste, on veut savoir ce qui est bien. Et à la fois, c'est juste parce qu'on a besoin de savoir comment conduire nos vies, et puis à la fois, on doit accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout connaître. Et je pense qu'on va aller encore de plus en plus dans ces questions-là, hein, même les questions éthiques. Alors, je ne dis pas qu'on doit les lâcher, mais il y a quelque chose qui nous manque, il y a un bout qui nous manque, il y a un bout de la connaissance qui nous manque. Et on doit l'accepter, accepter cette limite, accepter nos limites. Et ce qui m'a troublée, c'est le sentiment que, à cause de la foi, peut-être cette foi évangélique, salutiste, on est poussé des fois à vouloir dépasser ses limites. Et c'est important qu'on reconnaisse quand c'est de la foi et que c'est juste, que le Seigneur nous demande d'avoir la foi, d'y croire, de continuer de prier. Et je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire, bien au contraire. Et à quel moment c'est un refus des limites que Dieu nous a posées. Et qu'on pourrait se mettre à la place de Dieu. Pour accompagner encore cela, un autre livre m'a aussi beaucoup aidé, c'est Les idoles du cœur de Timothy Keller. Pour moi, les idoles, c'est tout ce qui est mauvais, c'est tout ce qui prend trop de place dans nos vies, qui n'est pas sain, etc. Et puis là, de me rendre compte que les idoles de nos cœurs, c'est des choses très très bonnes souvent, très très belles. Et ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est que même Dieu peut être une idole. C'est-à-dire, je m'excuse, c'est un peu choquant, mais pas Dieu, mais nos images de Dieu, nos fausses images de Dieu. On s'imagine un Dieu et c'est pas ce qu'il est. Et on est tellement focalisé là-dessus. Donc, quand il dit pas se faire des images de Dieu, c'est pas une statue, mais c'est aussi ne pas être crispé dans comment est Dieu. On a une connaissance limitée de lui. On va à tâtons. Et je ne crois pas qu'il joue à cache-cache. Hein. Je ne crois pas que c'est ça. Mais je crois qu'on n'est pas capable parce qu'on est humain, parce qu'on a des limites et parce qu'on doit accepter cette condition humaine de tout connaître de lui. Et ça n'arrivera jamais. Et parfois, c'est un Dieu comme on se l'imagine. Alors, c'est pas Dieu qui est une idole, parce que Dieu, c'est notre roi, c'est évidemment. Mais c'est nos images. Nos images ou bien nos croyances, nos mensonges aussi sont des idoles. Même l'Église peut être une idole. Même des choses très très bonnes. Je ne sais pas si j'ose le dire, mais je vais quand même le dire. Même la prière peut être une idole. Même la Bible peut être une idole. Parce qu'on n'a pas la capacité de mettre de la distance. C'est vraiment seul Dieu et notre cheminement avec lui. Et j'ai envie de dire notre tâtonnement avec lui, qui est juste, qui est important. Et on a des risques aussi en tant que chrétien, justement. C'est ce que je disais aussi, c'est tellement pieux, c'est tellement spirituel parfois, nos mensonges. Hein? Et je pense que des fois, c'est difficile. Et je pense que nos attentes aussi par rapport au mariage et à la famille, ça peut être des idoles. Et des fois, j'ai peur que c'est plus difficile encore pour des chrétiens que pour les autres, parce que la barre est tellement haute, parce qu'on s'imagine tellement que ça devrait marcher, qu'on a Dieu, et du coup, c'est encore plus compliqué. On est humain, on a des limites, on a des défauts, on a un corps, on a une personnalité. Et si le Seigneur nous transforme et continue, hein, c'est jamais fini, alléluia, on doit faire aussi avec qui on est. Donc voilà, je réalise que j'ai beaucoup à apprendre, que des choses parfois sont très bien cachées dans la spiritualité, dans la foi. Et même la Bible, hein, on peut aussi, je pense que si on pourrait vraiment faire une idole de cette Bible, vouloir absolument tout comprendre, la respecter à la lettre, etc., et puis on va se perdre. On a besoin de cette relation avec le Christ. J'ai besoin de savoir que Dieu m'aime, que Dieu m'accompagne, que Dieu est Dieu et moi je suis juste moi. Et il m'aime tel que je suis. Il m'aime avec ma personnalité, mes défauts. Il m'aime assez pour me proposer de m'améliorer, de changer. Pas pour qu'il m'aime plus, mais parce qu'il m'aime, il désire continuer de me transformer. Et puis j'aimerais aussi peut-être terminer avec ce chapitre de Jean 15 qui est aussi pour moi super important, qui m'a aidé dans ces mensonges à les écarter. C'est la parabole des sarments que vous connaissez aussi certainement très très bien. Je ne trouve pas une bonne évangile qui dit restez attachés à moi comme je reste attaché à vous. Jésus dit qu'il est attaché à nous. Moi, je pensais toujours que c'était nous qu'on devait s'attacher à lui. Hein? Mais il est d'abord attaché à nous, puis nous, on s'attache aussi à lui. Ça, je trouve extraordinaire. Et puis, il dit un peu plus loin, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein? Même en travaillant beaucoup, en priant beaucoup, en lisant beaucoup la Bible, c'est lui qui fait. Et puis aussi, ce qui m'aide beaucoup dans cette parabole, c'est que je crois que j'avais très envie de tirer sur les sarments pour que les fruits poussent, quoi. Je me dis, mais un arbre, il ne va jamais faire je ne sais pas quoi pour que ses fruits poussent. Le Seigneur nous demande de porter des fruits. Mais je ne peux rien faire au bout des arbres, au bout des branches. Ce que je peux faire, c'est rester connecté. C'est laisser passer la sève. Et moi, j'aimerais avoir un peu plus de pouvoir sur ce qui se passe au bout des branches. Alors que ce que Dieu me dit, c'est d'être connecté, de laisser passer cette sève. Alors, voilà, ce que j'ai vraiment envie de vous laisser aujourd'hui, c'est de découvrir encore et encore l'amour que Dieu a pour nous, de nous laisser aimer, vraiment, vraiment, et de laisser nous dire là où il y a des mensonges. Et je crois vraiment que c'est la vraie liberté. La liberté, elle n'est pas ailleurs que dans l'amour de Dieu. Cet amour qui nous libère pour le servir, qui nous rend libres, libres d'aimer, libres de servir, libres d'être en route avec les gens chez nous, les gens autour de nous, les gens dans ce monde. C'est compliqué, je l'ai déjà dit, et je crois que ça va le devenir de plus en plus. Comment réagir, quelle position prendre, etc., même si je crois qu'on est clair. Mais la liberté de la relation avec Dieu, la relation les uns avec les autres. Et je crois que la plus grande liberté, c'est dans l'amour du Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez, avec moi, qu'on puisse ensemble découvrir toujours plus cet amour de Dieu et accepter nos limites pour que lui soit élevé.